Combien Dieu est grand? Combien Dieu est grand? Et on essaie de le mesurer dans nos vies. On essaie d'avoir, vous voyez, un moyen de mesure, mais on a du mal à quantifier la grandeur de Dieu et sa grandeur, sa puissance, son autorité. Et vous savez que Dieu est le Dieu créateur. Et pour que Dieu crée la vie, pour qu'il nous crée, pour qu'il crée l'univers, il a fallu une quantité énorme, astronomique, on n'a même pas les mots, d'énergie. Tu vas me dire, ouais, tu vas nous parler d'énergie ce matin. Oui, je vais te parler d'énergie. Parce que notre Dieu, on dit qu'il est tout puissant. On a beaucoup de qualificatifs. Il est souverain, il est ceci, il règne, machin. Mais il règne parce qu'il est tout puissant. Et parce que c'est lui qui a tout créé de sa parole, il va créer toute chose. Et une quantité astronomique d'énergie est déployée pour créer notre univers, pour nous créer nous, pour créer tout ce qui nous environne. Alors, quand je pense à ça, ça m'interpelle. Parce que je regarde autour de moi et je vois ce soleil qui brille et je me dis, enfin il est sorti. Parce que là, on commence à en avoir marre. Hein. Un printemps un peu compliqué, un peu maussade, beaucoup de pluie, pas beaucoup d'ensoleillement. Et on a besoin de ce soleil, on a besoin d'être réchauffé, on a besoin de sentir les effluves que nous donnent les plantes qui poussent, les fleurs. Et là, ça commençait à être compliqué. Moi, ça a commencé à toucher un petit peu mon moral. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Donne-nous plus de 2 jours de soleil, s'il te plaît. C'est là, le moral, c'est pas facile. Hein. Et tu travailles, tu es actif, et tu sors pas la tête de l'ombre, c'est compliqué. Est-ce que ça vous a fait ça aussi en ce moment? Et puis, dès qu'il fait beau, les rayons de soleil sortent, et là, ça fait du bien, ça fait du bien. Et ce soleil, c'est une quantité d'énergie à nouveau. Ça explose constamment. Il y a des explosions. La lumière nous atteint, nous fait du bien. Heureusement, on est à bonne distance. Et alors, quand je préparais ce message, je réfléchissais et je disais, Seigneur, voilà, je priais. Et puis, tu sais quoi, Dieu m'a parlé. Il m'a interpellé, il m'a donné cette image. Et j'étais dans mon bain. Et là, j'ai eu cette image. Tu vois, Dieu parle même dans le bain. Oh, le pasteur, il n'est pas très spirituel, il n'est pas à genoux toute la nuit en train de prier. Non, j'étais dans mon bain. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu peux me dire? Et là, j'ai eu cette image du soleil rayonnant au-dessus de nos têtes. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Et là, cette pensée forte est venue dans mon cœur. Quand le soleil est à son zénith et qu'il est au-dessus de ta tête, il n'y a pas d'ombre. Oh, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. C'est tellement simple, mais c'est tellement vrai. Vous voyez, alors que je marche, il y a mon ombre là. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et puis là, j'ai compris qu'on a tous des ombres dans nos vies. On a tous une petite part de ténèbres. On a tous ces petites faiblesses, ces petites choses qui parfois nous retiennent. Et la parole de Dieu nous appelle ça la chair. Vous voyez, la chair qui nous attire. Le péché qui est entré en l'homme au commencement. Vous connaissez l'histoire et qui est là souvent. Et puis le Seigneur me disait, quand je suis bien au-dessus de toi, quand je suis au zénith, que je règne sur ta vie, il n'y a plus d'ombre dans ta vie. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mais parfois, tu sais, tu es là et puis tu as cette ombre qui est là et tu penses que tu peux la dominer. Et on entend souvent, il faut dominer votre chair. Il faut la tenir en bride. Et alors, tu te dis, Seigneur, je sais dans ma conscience que telle chose et telle chose dans ma vie ne sont pas correctes devant toi. Tu as la révélation de ce qu'est le péché, parce que tant que tu n'as pas rencontré Christ, tu ne sais pas ce qu'est le péché. Le péché, pour toi, ça ne veut rien dire. Mais une fois que tu as cette révélation, tu comprends qu'il y a certaines choses qui ne plaisent pas forcément à Dieu. Et puis, il y a cette ombre qui est devant toi, tu la vois, et tu dis, c'est plus possible, je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Et tu dis, je vais prendre la laisse, hop, tu l'attaches, et tu dis, je vais la tenir. Je vais la tenir maintenant. Et là, tu commences à mettre une discipline dans ta vie et tu dis, je vais tenir ma chair, je vais tenir les difficultés dans ma vie, je vais faire telle et telle chose pour qu'elle n'ait plus d'emprise sur moi. Le problème, c'est que tu commences à la tenir, tu penses que c'est toi qui es le maître du bateau à bord et finalement, tout doucement, elle t'attire et t'as vite fait de commencer à courir derrière elle. C'est plus toi qui la tiens, mais vous avez déjà vu ces personnes qui courent avec leur chien, ils ont un harnais, c'est le chien qui court, et ils sont comme ça. Oh, oh,
Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin de... Tu dis, tes jambes, pourquoi tu fais ça? Alors, ça t'aide à un moment donné, mais à un moment donné, l'inertie, tu sais plus t'arrêter. Et là, tu te rends compte que t'es à nouveau, t'as beau mettre en place un protocole pour ta vie, toutes sortes de choses, une rigueur de prière, toutes sortes de rituels dans ta vie, tu te rends compte qu'à un moment donné, tu te mets à courir et c'est plus toi qui es le maître de ta vie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et tu cours, et tu cours, et tu cours, et l'ombre est de plus en plus grande, elle prend de plus en plus de place, le compromis dans ta vie prend beaucoup de place, et tu te retrouves avec une ombre qui est de plus en plus grande parce que tu t'éloignes du soleil. Tu es en train de t'éloigner du soleil. Le péché, le compromis m'éloigne de la présence de Dieu. Et à un moment donné, comme tu connais le Seigneur, tu dis, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et puis, Dieu te parle, il parle à ta conscience. À ta conscience, tu as une conscience, et le Saint-Esprit t'interpelle d'une manière ou d'une autre, et là, tu vas dire, je ne peux plus continuer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas avoir cette prise de conscience et tu vas dire, Seigneur, ça suffit. Tel ou tel domaine de ma vie, il faut que ça s'arrête. Alors moi, je partais au travail un jour, tu vois, pas tous les jours, mais un jour, j'allais au travail et je sors dans ma rue et je dis, Seigneur, c'est bizarre, je commence à parler au Seigneur, tu vois, comme quand je parle dans mon bain. Et je lui parle et je dis, Seigneur, tu vois, mon état actuel est bizarre, je suis bizarre. Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à mettre les mots, mais je sens que je suis pas libre là. Vous voyez, vous sentez vous avez déjà senti ce sentiment, vous dites, Seigneur, il y a quelque chose qui coince dans ma vie. Et donc, je suis là et je marche et je dis, Seigneur, je comprends pas ce qui m'arrive. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai une solution. Eh bien, prends mon cœur, Seigneur. Parce que là, ça va plus, j'ai des mauvaises pensées. Et ces pensées-là, elles ne me font pas du bien, elles ne m'amènent pas à la vie. Et j'ai eu cette prise de conscience et j'ai dit, Seigneur, il faut que je fasse demi-tour. Il faut que j'abandonne cette pensée. Et là, j'ai abandonné cette pensée. Le problème, c'est que tu as vite fait de te dire, OK, j'abandonne telle ou telle chose. Et puis tu te retournes et tu dis, c'est fini, moi je veux courir vers le soleil. Ça t'est déjà arrivé de courir avec le soleil en face de toi? Il suffit que tu sois en voiture, que tes vitres soient mal lavées, que tu aies le soleil en face de toi, tu ne vois plus rien. Et là tu dis, coûte que coûte, je m'approche du soleil, je m'approche de la présence de Dieu. Et tu te mets à courir dans l'autre sens, tu fais demi-tour et là tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Tu ne vois rien mais tu cours. Parce que tu cherches ton salut, là. Et tu cours et t'arrêtes plus, t'es essoufflé, t'en peux plus, tu cours, tu t'arrêtes plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'arrives à la réunion de prière et tu cours, là, tu balances tes grandes prières, Seigneur, voilà, machin, tu vas à tel endroit chez tes amis, et tu cours, et tu cours tellement que les gens sont impressionnés par ta course. Et ils disent, moi, je veux le suivre parce qu'il est déterminé. Il est déterminé, moi, je veux le suivre. Sauf que toi, tu vois rien. Tu cours après le Seigneur, mais tu sais pas où tu cours. Tu sais que notre planète, elle tourne autour du soleil, tu es d'accord avec moi, qu'elle tourne en même temps sur elle-même. Tu cours tellement vite que tu vois jamais la nuit ou tu n'es jamais pleinement dans le jour, tu as toujours le soleil en face de toi, tu vois. C'est incroyable. Et tu t'arrêtes plus. Et là, tu te mets à courir et il y en a un autre qui court avec toi à tes côtés. Et alors, on y va, on y va, on y va. Et là, tu tombes dans un activisme, tu tombes dans toutes sortes de rites, dans toutes sortes de fonctionnements. Dans toutes sortes de traditions. Voilà, il faut que je fasse ça, parce que quand je fais ça, c'est bien devant Dieu. Moi, je ne veux plus retourner là où j'étais avant. C'est fini. J'étais attiré vers les ténèbres, mais maintenant, moi, c'est la lumière. Je ne sais pas où je vais, mais c'est la lumière. Et tu es ébloui constamment. Alors, on va lire ce passage. Vous allez voir Jésus qui va nous enseigner. On va prendre Matthieu 15, versets 1 à 20. Alors, les pharisiens, les spécialistes de la loi, vinrent de Jérusalem. Donc là, on parle pas de gens qui sont incultes, c'est des gens vraiment qui ont de la connaissance, qui connaissent les écrits bibliques, qui connaissent les écrits sacrés et qui vont se retrouver devant Jésus. Et ils vont chercher à coincer Jésus. Vous savez, on essayait souvent de coincer Jésus. Et ils vont lui poser une question. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Tu comprends, les anciens, c'est important tout ce qu'ils ont fait avant nous. C'est important tout ce qu'ils ont fait. Notre vie, notre façon d'être, notre culte est basé sur ce qu'ils ont accompli et ce qu'ils ont mis en place. En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Attention, hein. Faut te laver les mains. On est en période Covid. Fais attention. Ils ne se lavent pas les mains. Là, vous voyez, on veut coincer Jésus. Pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains? Et là, Jésus va répondre. Il répond souvent avec des questions. Parce que Jésus, sa parole est toujours à propos. Il touche toujours au cœur des choses. Et vous, pourquoi transgresserez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pour toi, la tradition est plus importante que le commandement de Dieu, et tu cours après un soleil que tu vois de loin, il y a toujours ton ombre derrière, tu la tiens derrière toi, tu cours devant, et tu suis des traditions et des rites, et tu ne sais plus pourquoi tu le fais. Et tu n'arrêtes pas de courir. Il y a une telle inertie dans ta vie que tu n'arrives plus à t'arrêter. Moi, j'ai parlé à des chrétiens comme ça, il n'y a pas longtemps, et quand je les écoutais parler, j'étais frustré. Je me suis dit, mais dans tout ce qu'ils disent, il n'y a pas la vie. Ça me fatigue, leur discours. Et ceci, et pourquoi on chante tel chant, et pourquoi on fait ceci, et pourquoi on fait cela. Et ouais, mais qu'est-ce que tu dis qui me fait du bien? Qu'est-ce que tu dis qui m'édifie et qui me fait grandir? La tradition. Et tu sais, dans l'église, ils font aller des drapeaux. J'ai entendu ça, j'y avais plus de mots. Il y a quoi avec les drapeaux? C'est quoi le problème? Ah non, mais regarde, celui-là, il s'est mis à danser là-bas. Ah, celui-là, il a sauté un peu trop fort. Ah, lui, il tape des mains, mais oh, il m'embête. Hein. À l'église, on est carré, on est... Hein? Et tu vois, tu tombes facilement. T'aimes Dieu de tout ton cœur, hein, tu l'aimes. Hein. Vraiment, tu l'aimes. Il y a une forme de cadre, tu vois, au final te dessert. Et c'est ce que Jésus va leur dire. En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Je vais aller vite sur ça, ce n'est pas le sujet. Mais vous comprendrez la pensée. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'ai pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous annulez la parole de Dieu au travers de votre fonctionnement, de votre interprétation de la lettre et de la mise en pratique que vous lui donnez. Vous annulez la parole de Dieu au profit d'une tradition. Sauf que la tradition, ça n'amène pas la vie. C'est ce que Jésus leur dit. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi ». Vous voyez, il court, Seigneur, par mes offrandes. Seigneur, par mon attitude, je m'approche de toi. Il prétend s'approcher de moi, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Jésus appela la foule à lui et dit, « Écoutez-moi et comprenez bien que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles ?» Tu m'étonnes. Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Et on court tous ensemble, éblouis par le soleil. On ne voit pas le fossé, on tombe dedans. L'inertie de la tradition. Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence, ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Tellement... Jésus, franchement, tu nous parles de toilettes? C'est quoi cette histoire? Il parle de pipi-caca, Jésus. C'est quand même pas très spirituel. Jésus, là-haut. Mais ce qui sort de la bouche vient de quoi? Vient du cœur. Sois attentif à ce passage-là. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Comme moi, là, cette semaine, j'avais des mauvaises pensées qui venaient de mon cœur. Ça venait pas de Satan, ça venait pas de ma femme, ça venait pas de mon voisin, ça venait de mon cœur à moi. Les mauvaises pensées qui viennent du cœur. Les meurtres, les adultères, la convoitise. L'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, les gars, ça finalement, c'est peu de choses. Hein. C'est peu de choses. Par contre, moi, Jésus, ce qu'il dit, ce que je vois dans vos cœurs, les gars, là. Ah, tu te laves bien les mains, tu suis toutes sortes de rites. Autant tu convoites la femme de ton voisin, là. C'est ça que Jésus voit. Il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Il voit ce qu'il y a dans notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, ce que personne ne voit. Il voit l'ombre qui est derrière toi, que tu essaies de cacher parfois. Il voit l'ombre quand elle est devant, à côté, il la voit. Et il dit, moi, je veux maintenant être au-dessus de ta tête pour que dans ta vie, il n'y ait plus aucune ombre. Arrête de combattre la chair par la chair. Arrête de courir. Accepte que je sois ta lumière au-dessus de toi. Et les ténèbres dans ta vie vont s'enfuir. On a chanté, les ténèbres s'enfuient. Et parfois, on prêche la chair, il faut résister. Oui, c'est vrai, on a une volonté, il faut savoir prendre des positions. Mais il faut surtout dire, Seigneur, tu es mon maître, tu es au-dessus de moi, regarde ma pensée. Quand tu dis, regarde ma pensée, elle n'est pas correcte, c'est une repentance. Tu dis, j'ai conscience que ce n'est pas correct, je te demande pardon, reviens à moi. Tu ne cours pas après le soleil il revient à toi. Tu tournes automatiquement, hop, et c'est au-dessus de ta tête. Il n'y a pas d'effort à faire. Parce qu'il y en a un seul qui a donné sa vie pour nous, c'est Jésus. Il y en a un seul qui a fait un sacrifice, c'est lui. Et tu n'en as pas 50 000 à faire. Et quand tu cours après quelque chose que tu ne peux pas atteindre, tu fais fi du sacrifice de Jésus au profit de « c'est moi qui ai réussi à dominer ma vie ». Bien sûr, on a une discipline à avoir. Mais Jésus, j'ai besoin que tu règnes sur moi. C'est ça l'essentiel. Ça vous va ? Alors oui, Dieu parle dans la baignoire. Dieu t'interpelle sur le chemin du travail. Dieu t'interpelle, oui, dans tes temps de prière. Dieu t'interpelle à l'intercession. Dieu t'interpelle pendant les cultes. La question, c'est, est-ce que j'ai examiné mon cœur en regardant un petit peu les rouages ? On avait cette parole ce matin à l'intercession, examine ton cœur. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Je n'ai pas toutes les explications, mais je sens que ça coince. Je te demande pardon, reprends ta place dans ma vie, sur mes pensées, sur mon attitude, dans les choses que je convoite, que je désire, qui m'attirent ailleurs, qui sont en train de... Je cours après l'argent. Vous savez, quand tu cours après l'argent, tu es attiré vers toutes sortes de chemins. Seigneur, ta volonté de Dieu là. Dieu t'a dit, arrête, je ne t'ai pas demandé de courir après ça. Je t'ai dit que je connais tous tes besoins. Que je sais tout ce dont tu as besoin. Je sais tout ce dont tu as besoin. Et ensuite, il nous a dit, il nous a donné le Notre Père. C'était notre ligne de conduite mercredi. Je connais tous vos besoins. Quand tu sais que Dieu connaît tous tes besoins, c'est quand même libérateur. Déjà, ça t'enlève beaucoup de prières inutiles. Tu pries plus pareil. Seigneur, tu sais... Non, Seigneur, là, tu te mets devant Dieu. Seigneur, je sais que tu connais tous mes besoins. Je te remets cette situation. Tu repars plus léger. Ça ne veut pas dire que tu as la solution à ta question tout de suite. Parce que Dieu, souvent, c'est 2-3 mots. Hein. Mais il te dit, fais-moi confiance. Ça marche ? Ok, verset suivant. Jean 8, s'il te plaît, Julien, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est vivant, une foi active. On a parlé de la foi active ces derniers temps. Il y a quelque chose qui se passe. Mon discours est différent. On a parlé aussi ces dernières semaines de « il faut savoir être vide pour être rempli de nouveau ». Dans cette vie-là, il y a une énergie qui rentre en toi, tu vois. Je me souviens du pasteur Cornelius au PEPS qui a dit, vous savez, la parole de Dieu est source de vie, elle renforce, il nous a fait comprendre que ça, quelque part, ça rallonge les jours de notre vie. Ça nous renfort. Il y a quelque chose qui se passe dans la parole de Dieu. Quand je suis en contact avec Dieu, avec sa parole, il se passe des choses. Proverbe 18, verset 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Vous savez tous que la langue peut faire des dégâts. Quand tu t'es disputé avec ta femme, tu as ravagé quelques murs. Quand tu t'es disputé avec ton frère, tu as cassé quelques murs aussi. Quand tu as dit des choses qui dépassaient ta pensée, tu as vraiment fait du mal. Est-ce que quelqu'un a déjà été blessé par les paroles de quelqu'un ou je suis tout seul? Ah, voilà. Est-ce que tu as déjà blessé quelqu'un? Voilà, on a notre langue, elle peut faire des dégâts. Et la deuxième chose qui m'a interpellé, je parlais à quelqu'un récemment, et on parlait de ça justement, la parole, parfois on fait du mal, on se fait du mal, tout ça. Mais aussi on peut faire du bien. Et il me dit, mais tu te rends compte? Parce que je parlais de, c'était au papa de Noémie. Vous voyez le papa de Noémie, Vaskevitch, donc c'est un médecin, et je lui dis, je l'ai rencontré, et je lui ai dit, écoute, je veux te remercier pour tout ce que tu as pu faire lorsque papa était malade, parce que je sais que tu as été vraiment une source d'encouragement pour eux. Et chaque fois que tu les as appelés, chaque fois que tu leur as parlé, ça les a encouragés, ça les a édifiés, ça a fait quelque chose. Ta parole a été source de vie pour eux. Et il me dit, tu te rends compte, bah, c'est incroyable, je remercie le Seigneur. Et là, il me regarde et il dit, tu te rends compte à combien plus forte raison la parole de Dieu est puissante. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est vrai, qu'est-ce que ta parole, Dieu, est puissante. Lorsque je l'écoute, qu'elle pénètre dans mon cœur, elle produit un feu, elle produit une vie et elle produit quelque chose de concret dans ma vie. Lorsque tu sens qu'il y a toutes sortes de paroles en toi qui produisent, voilà, de l'amertume, une tension en toi, une frustration, ça, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole qui libère. La parole de Dieu est puissante. Éphésiens 4, verset 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. » S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. Waouh ! À ceux qui l'entendent. Quand est-ce que tu as pu communiquer une grâce à quelqu'un ? Qu'est-ce que ça veut dire communiquer une grâce ? Ça veut dire que tu as fourni de la joie à quelqu'un qui n'en avait pas. Tu as amené la paix à quelqu'un qui n'était pas dans la paix. T'as amené quelqu'un qui était perdu, tu lui amènes la bonté de Dieu dans sa vie et tu dis, regarde, je te présente la bonté de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Là, tu es en train de lui communiquer une grâce. Parce que là, il est perdu, il est en train de courir à tout va et tu dis, arrête-toi, je vais te présenter quelque chose qui va te faire du bien. Une parole de grâce. La parole de grâce, c'est une parole qui va attirer ton âme, l'homme intérieur, plus proche de Dieu. Des fois, il y a des gens comme ça qui vont te parler, ton frère ou ta sœur, et j'en viens au quatrième point qu'on a reçu, on a besoin des uns des autres, qui vont te donner une parole de manière anodine, mais cette parole, elle sera à propos au moment venu où tu en avais besoin, et là, ça va t'approcher instantanément près de Dieu, plus facilement. Et pourtant, pendant une semaine, tu te bagarrais avec le Seigneur. Mais lui, il t'a dit quelque chose. Ah, c'est vrai. Je me recentre, le soleil il revient au-dessus de ma tête et l'ombre disparaît. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une parole de Dieu. Je ne te parle pas des paroles aimables, des paroles gentilles, des paroles affectueuses. Ça fait du bien, ça. C'est très bien. Je te parle des paroles qui viennent vraiment de Dieu et qui t'encouragent dans ta foi, qui t'édifient, qui te construisent. Une parole de grâce. Jacques 1, verset 21-23. Jacques 1, 21-23. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver quoi ? Sauver quoi ? Ton âme. Notre âme a besoin parfois d'être sauvée. Et ça ne se passe pas qu'une fois. Parfois, tu es perdu dans toutes sortes de pensées et tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de ton frère ou ta sœur qui va te dire, écoute, là, ce que tu penses, ce n'est pas correct. Mais je veux t'amener plus proche de Dieu. Regarde, lis tel verset. Je t'encourage dans tel domaine. Ton âme. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que la lettre tue, si tu l'interprètes à ta propre guise juste pour te conforter dans une pensée ou une idée qui vient de ton cœur et qui n'est pas correcte avec ce que Dieu veut pour toi, tu vas te conforter, tu vas trouver des versets, je peux t'assurer que tu vas trouver des versets qui vont te conforter dans ta pensée, sauf que ces versets-là, à ce moment-là, ne vont pas t'amener la vie, et bien ils vont te condamner tout simplement. Parce qu'ils vont te conforter dans une attitude qui n'est pas celle qui correspond à l'attitude que Dieu veut pour toi, et tu es en train à nouveau de courir après ton ombre. Tu essaies de la dominer, mais je peux t'assurer qu'elle va t'emmener droit dans le fossé. Ça vous est déjà arrivé, ça ? De vous conforter dans une pensée ? Tu sais, Chanel, elle est comme ça, et de toute façon, tu comprends, voilà, elle m'a dit ça, et puis c'était pas correct ce qu'elle m'a dit, et puis... Ah ouais, moi, elle m'a fait ça la semaine passée, c'était pareil. Elle est insupportable. Je prends ma femme. Parce que... Ben, ça, c'est pas la pensée de Dieu, tu vois. Tu as vu peut-être la faiblesse de ton frère, mais ça reste ton frère. Tu vas éviter de prendre un bâton et lui taper dessus. Et on a tous des petites faiblesses comme ça. Hein, mais là, je veux pas alimenter cette mauvaise pensée qui vient d'un cœur quelque part qui est fatigué, qui peut être abattu à un moment donné, mais qui va provoquer quoi ? Qui ne provoquera pas la vie. Qui vient amener la mort sur certaines situations plutôt que d'amener la résurrection. Sauf que moi, je crois en Jésus qui a ressuscité les morts et sa parole, elle est puissante et elle peut ressusciter toutes les situations dans ma propre vie et dans la vie des autres. Et il faut que je cultive cette pensée-là en disant, Seigneur, ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Ce n'est pas mon encouragement qui est puissant. C'est mon encouragement en Jésus-Christ par ta parole qui est puissant et qui produit la vie. Lorsque Dieu parle, il crée des choses incroyables. Et parfois, il y a des situations où on a l'impression que c'est désespéré. Seigneur, reviens dans ma vie. Reprends toute la place. J'ai besoin de toi. Alors, on a compris que finalement, tout comme on mange, on a besoin d'énergie. Vous savez que j'ai lu un bouquin sur l'énergie ces derniers temps et c'est vrai que tout ce qu'on développe, vous voyez, pour bouger, même si ça ne me coûte rien, mais je consomme de l'énergie. Si je me mets à travailler, c'est pour ça que quand je travaille, moi j'ai un métier physique, quand je rentre à la maison et que j'ai consommé toute mon énergie, je rentre à la maison et je dis à Chanel, laisse-moi 5 minutes, 10 minutes dans mon canapé. Il faut que je recharge un peu et ensuite, t'inquiète pas, la deuxième journée, elle commence. Ça va revenir. Je vais manger un coup, je vais reprendre des forces et puis l'énergie va revenir. Et donc, on développe de la force. On développe de la force au travers de nos membres, au travers de nos jambes et on a besoin de se nourrir pour ça. Vous savez bien que l'alimentation, si elle est mauvaise, eh bien, vous savez que ça va être compliqué. Hier, je suis allé avec mes enfants, on a fait deux heures de foot et quand on est parti, j'ai dit, les enfants, vous avez oublié votre eau. Je le savais. Hein. Et donc j'ai dit, maintenant, ça va être compliqué pour vous, mais je ne ferai pas demi-tour. Ils n'étaient pas contents. Je sais qu'ils ont soif, mais là, au moins, ils vont apprendre que papa, il ne peut pas penser toujours à 5 gourdes. Vous comprenez ça ? C'est, je ne peux pas toujours aller remplir 5 gourdes. On l'a fait pendant un temps. Maintenant, ils sont assez grands pour s'occuper de leur propre gourde, de leur propre nourriture. Je ne leur demande pas de faire le repas. je leur demande de remplir leur gourde et de la prendre avec eux. C'est essentiel pour vous. On est allé faire le foot, et là, on joue, on joue, on joue, on joue. Et à un moment donné, on était assoiffés. On n'en pouvait plus, il faisait beau. Sauf qu'il y avait une bonne ambiance. Alors, je disais, dans un quart d'heure, on part. Finalement, on devait rester une heure, on est resté deux heures. Et donc, on jouait, ils avaient soif. Et à un moment donné, Timothée, eh bien, il y a un garçon, vous voyez, qui dit quelque chose. Et puis, il rate une frappe au foot. Et vous savez, on peut être méchant. Hein. Déjà, les enfants, ils ont du mal. Et là, j'entends « pied carré ». Oh, c'est vexant hein, pour un garçon, il fait son mieux, il veut essayer de mettre un but, pied carré, ça veut dire tu ne sais pas jouer, tu frappes mal. Donc c'est une insulte, pied carré, Jason, tu l'as déjà entendu. Et là je vois Timothée, il s'est vexé, il avait soif, il était fatigué, il a entendu ça, c'était la goutte d'eau là. Il est sorti du terrain, il est parti bouder. J'ai perdu un joueur. Donc j'ai dit bon, alors là j'ai dit à son cousin, je dis écoute, on était allé avec Maxence, je dis Maxence, va parler à ton cousin, va l'encourager parce que pour qu'il revienne. Et donc là, il est allé le voir, il lui a dit des belles paroles, il lui a donné son petit surnom, et Timothée est revenu, il a mis 4 buts et il était content. Mais vous voyez, la parole est créatrice. Elle crée des choses en nous. Elle nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et on a besoin de se nourrir correctement. Matthieu 4, verset 4, Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Pas seulement de l'eau que je peux prendre dans mon robinet, pas seulement du steak haché que je peux cuire, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. J'ai besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de me nourrir des paroles qui sortent de la bouche de Dieu pour être encouragé là où personne forcément m'encourage, ou dans mon travail on ne m'encourage pas forcément, ou dans ma famille peut-être c'est difficile. Seigneur, j'ai besoin de ta parole pour ma vie. Alors j'ai la parole de Dieu. Mais j'ai besoin de lire ces versets et qu'ils produisent la force nécessaire pour affronter les situations. Parce que ta parole est vivante et elle est toute puissante. Est-ce que tu as déjà lu un verset et puis il est là, il trotte dans ton cœur et tu sens que ça produit quelque chose et tu es face à une situation à un moment donné et tu comprends que là, tu t'es approprié ce verset et tu as une victoire dans ce domaine-là parce que ces quelques lettres qui étaient écrites sur une feuille ont pris vie en toi. Ça t'est déjà arrivé, ça? Et là, tu vis une belle expérience avec Dieu. Tu es tellement encouragé que tu vas être une bénédiction pour ton frère dans la semaine parce que tu as été tellement encouragé que là, tu vas lui dire « Cours avec moi, je vais te montrer où il faut aller » et tu vas lui donner une parole à propos qui va l'encourager dans sa situation parce que toi, tu es passé également dans la même. Ah, la parole de Dieu est vivante, Jason. Faut l'écouter, hein. La parole de ta femme, elle est là, tu vois. Tu dois le savoir. Hein. Nous, les hommes, on dit toujours oui à la femme. Mais à un moment donné, quand Dieu y parle, c'est non, chérie. Là, cette parole-là, elle est au-dessus de la chaîne. D'accord? Ça, c'est une règle dans le couple. Hein. Moi, je dis oui, Chanel. Et quand Dieu me parle, c'est autre chose. Chanel, tu suis. Un Corinthiens 4, verset 20, j'aimerais confirmer cette pensée. Car le royaume de Dieu, c'est Paul qui dira ça, alors que c'était un homme érudit, un homme qui connaissait les textes, un homme qui pouvait faire toutes sortes de discours. Mais c'est un homme qui a aussi dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est une puissance pour moi, pour vivre spirituellement dans ce monde, pour affronter les situations, j'ai besoin de la parole de Dieu. Jean 6, 63, on va lire rapidement. Je vais vous passer un petit peu le... C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. C'est Jésus qui dit ça, pour confirmer. Ensuite, Éphésiens 6, 11 à 18, on va aller vite. C'est avec les armes de Dieu. Vous connaissez les armes de Dieu, d'accord? Et juste, on va être interpellé sur ce sujet. Parfois, tu sais, t'as beau être sous, en fait, dans ta vie, t'as beau être sous ce soleil, t'es bien, t'as pas de problème, parce qu'on n'est pas toujours dans les problèmes. Hein. Faut pas penser que le chrétien est toujours dans les problèmes. Non, il y a des bons temps, il y a des bons moments, il vit des belles choses. Par contre, parfois, tu suis Dieu, il y a la présence de Dieu dans ta vie, tu agis, tu prends les bonnes décisions. Et tu sais, Il y a une image où quand le soleil est sur toi, tu vois, quand il est là, qui t'inonde, tout est clair. Jésus a dit, je suis la lumière, si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Et parfois, vous avez des chrétiens, Dieu est au-dessus d'eux, tout est favorable autour d'eux, vous voyez, il y a un rayon, imaginez que je suis au milieu de la salle, il y a la présence de Dieu, et puis toute la salle est remplie de lumière, on voit clair partout. Et en fait, tu es là, et tu pries, Seigneur, où est-ce que je dois aller ? Seigneur, où est-ce que je dois aller ? Où est-ce que je dois aller ? Ici, là, tu passes 2 heures à prier, sauf que Dieu te dit, ici, c'est ta zone, tu fais ce que tu veux dans cette zone. Je n'ai pas besoin de te dire où tu vas. Seigneur, je dois acheter une voiture. Et puis tu pries pendant 2 heures, 3 heures, est-ce qu'elle sera rouge ou est-ce qu'elle sera bleue ? Je peux te dire que pour Dieu, peu importe, il te bénira de la même manière. Et parfois, on perd du temps à chercher la volonté de Dieu dans une certaine situation, alors que tu es bien en fait, que tu choisisses B ou A, Dieu te bénira. Tu auras la faveur de Dieu. Que tu ailles là ou là, il y aura d'autres épreuves. Mais Dieu sera avec toi. Et ça, tu as besoin d'affirmer cette confiance en Dieu en disant, Seigneur, tu connais tous mes besoins. Tu connais tous mes besoins. Je crois en toi, je me lève le matin. Seigneur, je crois que cette journée sera une journée bénie. Je m'attends à Dieu. Et là, tu t'engages. Et vous savez, il y a une seule chose qui peut t'arrêter. Une seule chose qui peut t'arrêter, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et vous avez ce verset dans, vous voyez, Paul qui va commencer à annoncer l'Évangile. Pour lui, c'était clair. Il faut que tous soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Je prends mes chaussures, que j'aille dans telle ville, telle ville, telle ville, telle ville. Un homme de prière quand même. Il se mettait ses sandales, il mettait sa tunique, il marchait et il s'attendait à Dieu là où il allait aller. Dieu ne lui avait pas forcément dit « va dans telle ville ». Mais à un moment donné, comme c'est un homme attentif à la voix de Dieu, il y a un périmètre où il peut agir. Et bien le Saint-Esprit va dire « oh calme-toi, là je ne veux pas que tu ailles, ok je fais demi-tour ». Il s'était engagé. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ils partaient vers. Et Saint-Esprit s'oppose, dit non, on s'arrête, on va ailleurs. Ok, très bien. Il ne s'est pas inquiété avant de partir, d'où est-ce que Dieu veut que j'aille. Parfois, on se pose 50 000 questions, on n'avance pas. Parce que tu pries pour la volonté de Dieu, Dieu sait tout ce dont tu as besoin. Il te couvre, sa lumière est là, A, B, C, Z, peu importe. Je crois que Dieu est avec moi. Et s'il n'est pas avec moi, il va se manifester parce qu'il me parle. L'Esprit de Dieu me parle. L'Esprit de Dieu nous dit aussi, Paul, à un moment donné, il parle à ma conscience. Il me dit stop. Est-ce que tu entends cette voix qui te dit stop ? Alors je reviens, j'ai dérivé un petit peu, hein, mais on a ce passage qui nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors, la première personne qui peut t'arrêter dans ta marche avec Jésus, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va te conduire différemment. Jésus, par son sacrifice à la croix de Golgotha, te donne la possibilité, en son nom, de connaître la puissance du Dieu Tout-Puissant pour opérer toutes choses dans ta vie. Et le Saint-Esprit te conduit dans ce qu'il a besoin que tu fasses à un moment T. Et lui-même peut t'orienter différemment. Mais à un moment donné, quand tu commences à prendre la place, tu commences à prendre l'espace, et que la lumière qui est en toi commence à bousculer les situations à gauche, à droite, elle commence à contaminer, tu commences à être contagieux auprès de ta famille, tes amis. Il y en a un qui va se rebeller. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui, sa seule solution, malin, il va envoyer les nuages. Et là, il n'y a plus de soleil. Tu es toujours dans la volonté de Dieu, c'est toujours OK pour toi, mais là, il y a les nuages qui couvrent ta vie, et là, tu es perdu. Là, tu dis, qu'est-ce qui se passe ? Il cherche à te bloquer, à bloquer ton influence, te mettre des bâtons dans les roues, c'est ce qu'on appelle l'épreuve dans la vie du chrétien. C'est pour ça que je te dis, tu choisis A ou B, des épreuves, il y en aura. Et c'est là où tu as besoin de t'appuyer sur ta connaissance, sur ta parole, sur ta certitude. Dieu, tu es fidèle, je sais que tu es là. Pour l'instant, je ne te vois pas, c'est compliqué, le vent souffle, il pleut, ça dure, je ne vois plus le soleil. Mais je sais ce que j'ai vécu avant, je sais qui tu es et je sais que tu prends soin de moi. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. À ce moment-là, tu ne luttes pas contre toutes ces choses-là, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Tu dois connaître tes armes. Quand Jésus est là, tout va bien, ça coule. Mais quand le temps se gâte, Là, tu dis, OK, je prépare mon épée, je prépare mon bouclier, je suis prêt, mon gars, vas-y, envoie la sauce. On va combattre maintenant. Là, tu rentres dans ta chambre, tu commences à prier. Là, tu commences à prendre tes versets, tu les proclames. Là, tu commences à te rappeler ce que Dieu a fait pour ta vie. Tu te rappelles toutes les promesses que Dieu t'a données. Tu te rappelles toutes les vérités, celles qui libèrent, pour que cette situation s'arrête. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il faut résister dans le mauvais jour. Tu ne sais plus, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus aller là, tu ne peux plus aller. Il n'est même plus question de faire un choix là, dans ta vie. Il est juste question, il y a des problèmes, il faut que je résiste pendant une semaine, deux semaines, pendant mon opération, pendant les complications à gauche, à droite. Là, j'ai besoin de résister, Seigneur. Dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je passe, vous irez lire les chaussures, machin, ceci, cela. Et ensuite, il écrit, prenez aussi le casque du salut. Le casque, je me rappelle, Seigneur, pourquoi je suis ton enfant, en fait. Mes pensées, là, je les canalise parce qu'il y a toutes sortes de choses qui viennent à moi et il faut que je sois protégé dans mes pensées. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est écrite, mais elle est esprit, elle est vivante. Je prends cette épée-là et là, je commence à fendre. Quand il y a une attaque qui vient, quand c'est compliqué, quand je suis abattu, quand il y a le découragement qui arrive, quand Satan s'acharne sur moi, quand ma santé me fait défaut, quand toutes sortes de choses, je résiste. Parce que le temps va se lever à un moment donné. Et c'est le souffle de l'esprit qui va souffler sur ces nuages. Et à nouveau, ah, ça fait du bien. Faites en ton temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parce que peut-être que toi, tu es sous le soleil en ce moment, mais il y en a un, c'est le combat. Comme on a prié pour Jean-François, c'est le combat. Comme c'était le combat chez nous. Comme dans certaines situations, moi je vous ai, vous souvenez, il y a quelque temps, je vous ai demandé, je dis priez pour moi. Priez pour moi parce que ça chauffe dans ma tête. Il y a des choses, je ne suis pas compliqué moi. Il écrit ça, je dis Seigneur, je veux le vivre, c'est tout. Mais quand je commence à réfléchir, je suis un gars, je suis pas si bête que ça en fait. Mais j'ai compris que quand je réfléchis un peu trop, ma foi, elle se réduit un peu. Puis là, je commence, là je dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Ta révélation, ta parole pour ma vie maintenant. Et tu sais quoi, quand tu vas être rempli de la parole de Dieu, de toi-même, on dit que c'est de notre cœur, protège ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Quand tu vas être rempli de cette parole, la parole vivante, et bien de toi va sortir des paroles qui seront bénissantes pour les autres. Et tu seras une bénédiction pour l'Église et pour les gens qui t'entourent. Dans ton travail, ton patron va être béni parce que tu es là. Parce que toi, tu encourages les autres, parce que toi, tu as une réelle bonté pour l'autre, parce que tu as à cœur que le bien-être de la personne qui est à côté de toi. Et la faveur de Dieu repose sur toi. Amen.